France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les chemins de la connaissance. La dramaturgie par Florence Marguet en 1990 en 5 émissions. Il va être question de l'avènement de la dramaturgie dans l'histoire du théâtre. Le théâtre, en effet, a longtemps été une pratique non théorisée, avec allant de soi le texte et son excellence. Une mutation s'opère au XXe siècle, qui voit naître la dramaturgie et croître l'importance du metteur en scène. De tout temps, l'art des comédiens, le jeu scénique, ont passionné. Mais la relation au texte et au jeu va s'enrichir, inclure la question de la réception du rôle social du théâtre, du public, comme l'œuvre de Bertolt Brecht en témoigne. Les comédiens n'hésiteront pas à affirmer eux aussi leur place, leur apport, comme le fit en son temps Maria Cazares, qui précisa et maîtrisa son jeu à l'extrême. Pour prolonger cette émission, vous pouvez lire de Florence Marguet Forsyth, productrice de cette émission, un livre qui vient de paraître, Maria Cazares, une actrice de rupture, chez Actes Sud en 2013.
Du texte à la représentation avec Bernard Dort. La dramaturgie est un mot qui a plusieurs sens et au cours du temps on assiste à un glissement sémantique de ce terme. Dans une conception classique, la dramaturgie représente l'ensemble des règles qui régissent la composition d'un texte dramatique. En Allemagne, au XVIIIe siècle, Lessing, dans la dramaturgie de Hambourg, entreprend une réforme théorique portant à la fois sur l'écriture et principalement sur la pratique théâtrale. Puis, au début du XXe siècle, l'avènement de la mise en scène donne à ce terme un dynamisme nouveau. Bernard Dort, votre regard se situe à la fois en dedans et en dehors de la fabrique du théâtre. Alors justement, Bernard Dort, comment au cours de votre propre itinéraire, la notion de dramaturgie a-t-elle évolué ?
Il se trouve, bien sûr, que dans mon itinéraire, il y a eu une rencontre qui a beaucoup compté, c'est la rencontre de Brecht, pas tellement de Brecht personnellement, mais du Berliner Ensemble, la lecture des textes de Brecht, la réflexion autour de ce que Brecht apportait au théâtre. Et évidemment, alors, dans la réflexion brechtienne, la notion de dramaturgie au sens allemand du terme, c'est-à-dire ce qui se préoccupe, en quelque sorte, du passage de l'écrit à la scène, ce qui prend en charge ce passage, ce qui pense ce passage, c'est ça qui m'a intéressé. Qu'un texte puisse passer à la scène, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un texte prenne sens et corps à la scène ? Et je crois que c'est ça, au fond, l'objet de toute réflexion dramaturgique. La réflexion dramaturgique, en ce sens, est le versant théorique, si vous voulez, de l'avènement de la mise en scène moderne. Avant les metteurs en scène modernes, on montait des spectacles selon des règles, selon des habitudes, selon des pratiques. Bon, la dramaturgie, au fond, c'est de réfléchir à ça avant la scène. Et la mise en scène, c'est de la dramaturgie en action pour moi.
Dans la représentation émancipée, vous dites « si mettre en scène, c'est mettre en signe, jouer, c'est déplacer les signes, instituer dans un espace et un temps défini le mouvement, voire la dérive de ces signes ».
Là, c'est au fond alors une réaction contre une attitude trop strictement dramaturgique, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire la réaction contre le fait que l'on pourrait tout prévoir d'une représentation, que l'on pourrait écrire une représentation comme on écrit un texte. Or, je crois que texte et représentation sont deux choses tout à fait différentes. Et là, j'essaie de mettre en évidence l'apport fondamental, l'apport proprement bouleversant de l'acteur. L'acteur, en effet, travaille à partir, d'ailleurs, d'une certaine conception dramaturgique du texte. Mais ensuite, en quelque sorte, il bouleverse cette conception, il l'enrichit,
il la fait vivre,
c'est ça, et quelquefois il la fait dériver. J'écrivais ça pour retrouver une chose qui me paraît absolument essentielle au théâtre, c'est la part du jeu. Et la part du jeu, c'est justement la possibilité d'une dérive du sens, d'une mise en cause, d'une transformation concrète, par le concret du jeu, des projets dramaturgiques les mieux établis.
Une mise en jeu que vous pratiquez aussi, parce que vous avez à la fois un regard de, on pourrait dire, un peu de théoricien, mais aussi de praticien avec...
Oui, je suis professeur de dramaturgie au conservatoire. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en évidence devant eux justement ce fait banal, enfin, que tout texte appelle plusieurs interprétations et qu'on peut peut-être essayer expérimentalement de confronter ces différentes interprétations. J'essaie de travailler avec les élèves du conservatoire pour leur dire, voilà tel texte, faites-en ce que vous voulez, mais à condition que ce soit cohérent, à condition que du sens en surgisse. Et puis ensuite, on réfléchit à la manière dont le sens surgit, on réfléchit aussi à la manière dont quelquefois ça ne surgit pas, enfin, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans un texte, bien sûr. J'essaie de leur faire faire, en quelque sorte, des variations de sens qui devraient les conduire à réfléchir sur la structure même du texte. En fin de compte, on part du texte, quelquefois on s'en éloigne beaucoup, enfin, on a l'air de faire les pieds au mur, en proposant des interprétations hasardées, enfin, par exemple, en extrayant une scène d'une pièce, enfin, et en ne tenant pas compte du tout des autres scènes, en jouant cette scène comme si elle était toute seule, enfin, comme si on ne savait rien, ni des personnages, ni de l'action représentée. Alors, ça peut nous éloigner notablement de l'ensemble du texte, mais... C'est pour revenir au texte.
Et c'est peut-être aussi pour essayer de développer une forme de liberté.
C'est ça. Alors, à ce moment-là, on retrouve le jeu, si vous voulez. Au fond, le théâtre, c'est un lieu où il me semble que le jeu et une pensée rigoureuse ne s'excluent pas du tout, réciproquement, enfin, mais où ils se combinent. Ils se combinent et se nourrissent l'un de l'autre.
D'ailleurs, on tend à voir apparaître... aujourd'hui, des comédiens qui trouvent une sorte de responsabilité.
Oui, c'est ça. Oui, ça fait partie aussi d'une chose qui me semble être une tendance actuelle. Enfin, la re-responsabilisation du comédien. Enfin, le metteur en scène, et Dieu sait que je ne suis pas du tout contre le metteur en scène. Je pense que le metteur en scène est absolument nécessaire. Mais le metteur en scène, à un moment, s'était un peu conforté et c'était tout à fait nécessaire. Comme un monarque absolu. Il a mis le comédien en esclavage, où il a presque transformé le comédien en instrument, en son propre instrument. Et aujourd'hui, il me semble que le comédien a tendance à se dégager de cette dictature du metteur en scène. Quelquefois, c'est pour nier le metteur en scène à tort, me semble-t-il. Je pense que ce serait beaucoup mieux que ce soit pour collaborer véritablement avec le metteur en scène.
Et dans le projet même de dramaturgie, il y a justement ce regard avec le public et cette intégration au projet du public.
Oui, bien sûr, puisque le récepteur du projet dramaturgique, c'est forcément le public. Et c'est le public qui dit le sens véritable. C'est pas le metteur en scène, ça n'est pas l'acteur, c'est le public qui repère le sens. Et dans cette perspective, on revient à une notion on ne peut plus classique, la notion moliéresque, c'est le public qui a toujours raison.
Mais également dans ce travail avec les comédiens, le comédien dramaturge, le comédien qui commence à s'enquérir d'un certain savoir et qui le revendique aussi. Mm-hmm. C'est un état d'esprit dramaturgique. Est-ce que c'est ça ce que vous appelez l'état d'esprit dramaturgique?
Oui, c'est ce que j'appelle l'état d'esprit dramaturgique, par opposition justement à la profession de dramaturge. C'est-à-dire qu'en Allemagne particulièrement, en fait dans tous les pays de l'Est européen, il y a une tradition depuis Lessing, c'est-à-dire depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a une tradition de dramaturge dans les théâtres. Il y a des dramaturges, il y a quelquefois des Dramaturgieabteilung, c'est-à-dire des sections de dramaturgie avec le chef dramaturge, le premier adjoint, le deuxième adjoint, le troisième adjoint, l'assistant dramaturge, l'hospitante dramaturge, etc. Alors, ça fait toute une... Il y a une espèce de brain trust dramaturgique. Ça me semble à la fois bien et dangereux, parce qu'il me semble dangereux de confier à qui que ce soit, et plus encore d'ailleurs à une structure qu'à un homme, une espèce de responsabilité du sens, si vous voulez. Il me semble que dans une entreprise théâtrale, cette responsabilité du sens, tout le monde doit la partager. Donc, qui est une certaine spécificité de travail dramaturgique, bien sûr que c'est pas les comédiens qui peuvent faire, ils n'ont pas le temps, ils ne sont peut-être pas formés pour ça, qui peuvent faire certaines recherches érudites qui sont parfois nécessaires, qui peuvent même comparer les états différents d'un texte, quand il y a plusieurs versions d'un texte, ça c'est un travail proprement en dramaturgique. Ça me semble très bien qu'il y ait des gens spécialisés dans ce domaine. Mais je crois que le souci dramaturgique, que cet état d'esprit dramaturgique, tout le monde doit le partager. Sinon, on retombe évidemment dans des spectacles qui sont soit le produit du génie d'un seul homme. Enfin, et à ce moment-là, tout le monde se dispute pour savoir quel est cet homme. Si c'est l'auteur, si c'est le metteur en scène, si c'est l'acteur protagoniste, enfin, si c'est, voire le scénographe. Ou alors, les spectacles ne visent qu'à des effets esthétiques. Enfin, or, je crois que c'est ce qui passe le plus vite au théâtre. Enfin, le beau, ou plutôt le joli, se consomme extrêmement vite au théâtre.
Roger Planchon, est-ce que la représentation est une forme d'écriture?
Oui, bien sûr que c'est une écriture. Il y a, j'ai toujours dit, au théâtre, c'est deux choses. C'est une écriture dramatique, c'est le travail de l'écrivain qui écrit des choses. Sur du papier, c'est des mots. Et puis il y a ce qu'on peut appeler de l'écriture scénique, théâtrale. Et il y a des époques où c'est l'écriture dramatique qui est la plus importante, et il y a d'autres époques où c'est l'écriture scénique qui est la plus importante. Pour prendre un exemple paradoxal, le théâtre du Moyen-Âge, c'est une grande époque de théâtre complètement scénique. On joue toujours la même pièce, ça représente toujours la même chose, le thème ne change pas, puisque c'est toujours l'histoire de Jésus ou bien l'histoire d'Adam, enfin c'est vraiment très simple, le thème est toujours le même, mais par contre on fait des représentations très extraordinaires, d'une immense richesse et d'un très grand savoir, qui racontent la même histoire d'une façon tout à fait inédite, nouvelle, etc. Et là donc, pendant tout le temps du Moyen-Âge, on ne raconte que la chute d'Adam, si vous voulez, on ne raconte qu'une seule pièce, mais en vérité, les représentations étaient d'un grand art et très savantes. Et très, le théâtre de Wilson, pour prendre un contemporain, c'est un théâtre scénique, c'est une écriture scénique qui n'a d'intérêt en grande partie que scénique. Ce n'est pas une écriture dramatique. Et par contre, évidemment, Shakespeare, si vous voulez... C'est une écriture dramatique, ça n'a aucun rapport. Il peut y avoir des grandes représentations de Shakespeare, mais le théâtre, c'est le mélange des deux. Mais ça peut être l'un dominant.
Bernard Dort, est-ce que la dramaturgie s'applique à d'autres formes artistiques que la forme théâtrale?
Oh, sans doute. En matière d'opéra, certainement. Enfin, on en a eu un exemple tout récent, contestable, mais quand même tout à fait passionnant. C'est Peter Sellars montant le Don Giovanni de Mozart ou les Noces de Figaro de Mozart. C'était des spectacles où la réflexion dramaturgique avait un rôle absolument essentiel. Alors, d'ailleurs, On peut critiquer la transposition, enfin, placer Don Giovanni à Harlem, faire de Don Giovanni une espèce de caïd de la drogue, etc. Enfin, tout ça est peut-être contestable, c'est d'ailleurs beaucoup moins nouveau qu'on l'a dit. Mais je crois que ce qui n'est pas contestable dans le travail de Sellars, c'est que justement, enfin, il prenait en charge une chose qui, à l'opéra, est souvent négligée, c'est le lien, justement, entre le texte parlé ou les récitatifs et le chant. Dans le Don Giovanni, c'était tout à fait frappant. Il n'y avait plus de différence, si j'ose dire, de qualité entre le récitatif et le chant. On ne venait pas là pour entendre des airs, on venait là pour voir un drame chanté.
Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce regard sur la scénographie, sur le texte, sur les éléments de la représentation pris isolément, mais constituant un tout, qui est la représentation, ne constitue pas justement une nouvelle approche d'un regard dramaturgique?
Oui, c'est une sorte de dramaturgie plurielle opposée à une dramaturgie univoque et une dramaturgie normative, enfin, qu'on avait été tenté d'instituer un moment. Même Brecht, par exemple, lorsque Brecht dit la base même de la représentation, c'est la fable, c'est-à-dire la conception de l'action que l'on veut représenter. Je crois en gros que c'est vrai. Mais il faut ajouter qu'il y a plusieurs phases possibles, enfin. Et puis qu'il faut peut-être pas exprimer cette fable à tout moment de la représentation, enfin, parce qu'on tombe alors dans quelque chose d'extrêmement pesant ou de répétitif. Je crois que chez Brecht, il y a eu cette volonté de réviser, si j'ose dire, la responsabilité de tous les éléments de la représentation, de la mesurer véritablement, et de faire repartir le théâtre là-dessus. Puisque, au fond, l'idée de Brecht, c'était que en 49 d'ailleurs, lorsqu'ils fondaient le Berliner Ensemble, il faisait un théâtre modèle qui devrait servir pour faire d'autres théâtres après la guerre dans une nouvelle société. D'où cette volonté de bien mettre les choses à plat et de réfléchir au fonctionnement. Et cette réflexion sur le fonctionnement est évidemment dramaturgique, bien sûr.
Est-ce que votre participation en tant que conseiller littéraire au TNS est également un des maillons de la chaîne du regard du dramaturge?
Oui, sans doute, mais j'ai précisément souhaité être nommé conseiller littéraire et non pas dramaturge. Pourquoi? D'ailleurs, c'est tout simple. Je ne travaillais pas sur les spectacles avec Jacques Lassalle. Je ne préparais pas le spectacle. C'était un travail dramaturgique, si j'ose dire, parcellaire, comme ça, pas continu. Mais j'aime bien aussi le terme conseiller littéraire, justement parce que je me méfie des excès de la dramaturgie, je me méfie de la figure qu'on a beaucoup brocardée, celle du dramaturge commissaire politique ou celle du dramaturge flic préposé à la signification. Enfin, j'ai horreur de cette image et je me serais bien gardé d'en être un.
En fait, la dramaturgie, c'est une pratique?
Je crois, oui, c'est une pratique et c'est vraiment un état d'esprit. C'est, je crois, de penser qu'au théâtre, tout signifie, mais que nous sommes responsables de ces significations et ces significations, en même temps, sont adressées à quelqu'un, enfin, c'est-à-dire au public. Donc, que ce dialogue entre le texte, entre les praticiens du théâtre et le public, il faut continuellement le penser, le contrôler, le vivre de manière responsable.
Sophocle, le citoyen dramaturge ou le héros pardonné avec Jacques Lacarrière. In. Jacques Lacarrière, vous avez publié en 1960 dans la collection Les grands dramaturges à l'Arche un essai sur Sophocle, puis la traduction de son théâtre complet. Aujourd'hui, Jacques Lacarrière, c'est en compagnie du dramaturge Sophocle que vous allez nous conduire dans l'univers du théâtre, de la pensée et de la culture grecque du 5e siècle.
Chez les Grecs anciens, celui qu'on appelle le dramaturge, d'abord, est quelqu'un qui participe à un concours au cours duquel le public va finalement choisir quel est le meilleur auteur, le meilleur dramaturge, le meilleur acteur. C'est un véritable festival qui se déroule à Athènes pendant plusieurs jours et qui est financé par la cité ou par des corréges, enfin par des citoyens riches. Autrement dit, c'est toute la cité qui est concernée par le théâtre à ce moment-là. Et le dramaturge lui-même, bien sûr, compte énormément puisque c'est lui qui écrit, mais en même temps, il n'écrit pas, si je puis dire, dans le silence d'une tour d'ivoire. Il écrit porté par la cité, porté par la manifestation même qu'est le théâtre dans la vie de la cité, et donc fatalement il en est une émanation.
Mais la place de Sophocle à l'intérieur de la cité est quand même assez spécifique, puisque je crois qu'il avait à la fois des fonctions politiques et religieuses.
Oui, mais enfin d'abord, il y a une raison assez, j'allais dire, assez concrète, c'est qu'il a vécu 90 ans. Et donc qu'il a eu une amplement d'occasion de participer à la vie sociale. Par ailleurs, vous savez qu'à Athènes, ville démocratique, à un certain moment, tout citoyen, en tout cas tout citoyen lettré, tout citoyen compétent, devait prendre part aux affaires de la cité et donc était désigné pour différentes activités qui auraient consisté aujourd'hui, par exemple, à des activités juridiques, législatives, militaires, sociales même. Et c'est la raison pour laquelle, à plusieurs reprises, Sophocle, probablement parce que aussi il avait certainement une personnalité très forte, a été élu et désigné à différents postes, à différentes fonctions, notamment stratège, qui est assez important parce que c'est une fonction à la fois militaire, mais en même temps de responsabilité civique, et puis aussi, à d'autres reprises, à prendre part, comme on dit, aux affaires de la cité, comme juge, par exemple, au cours de certains procès, comme conseiller. Donc, il a participé à tout cela, mais vous savez, les autres aussi, et Eschyle aussi l'a fait, Euripide un peu moins, mais c'est Sophocle, je crois, qui a été le cas le plus net de fusion, ou en tout cas d'identité entre un dramaturge, un homme, un créateur, et un citoyen, je dirais, actif dans sa cité, et qui a vraiment participé aux affaires d'Athènes.
Alors justement, quelle est cette parole, quel est ce regard de Sophocle sur les citoyens ?
Vous savez, ce qui est assez difficile, parce que ça, ce sont des choses qu'on peut peut-être faire au XVIIe siècle, on a pas mal d'éléments, il est bien évident qu'un homme qui a été un magistrat, c'est-à-dire pas magistrat professionnel, mais à plusieurs reprises, et notamment dans des moments très difficiles, quand la démocratie a été menacée, Sophocle a constitué un comité de salut public, si l'on peut dire. Donc un homme qui était particulièrement engagé dans les problèmes de sa ville, de sa cité, ne pouvait pas ne pas certainement retransmettre des échos dans ce qu'il a écrit. Mais vous savez, les dramaturges ne se souciaient pas d'originalité. Hein, dans la Grèce ancienne, ça c'est une notion qui leur échappait totalement et dont ils n'avaient que faire. Au contraire, pratiquement, il se référait à des thèmes, des mythes, des légendes, des histoires connues de tous, ce qui d'ailleurs simplifiait le problème du public. Tout le monde connaissait les histoires d'Œdipe, d'Antigone, celles d'Atrée, celles de Thiès, celles de l'Agamemnon, d'Oreste, d'Électre. Et donc, à partir de ce canevas, qui était un canevas populaire, si l'on peut dire, en tout cas connu du public, chacun apportait son regard, son interprétation, je dirais son découpage personnel, et c'est cela qui faisait le dramaturge.
Dans votre essai, vous dites, dans son œuvre, Sophocle propose une réflexion, une morale et une revendication des droits de l'homme devant l'arbitraire d'un pouvoir sans limite. Donc, Jacques Lacarrière, qu'il s'agisse d'Ajax, d'Antigone, de tous les personnages de la tragédie de Sophocle, de tous ces héros qui sont maudits, ces héros éprouvent l'affrontement de leur regard et de leur conscience face, justement, à la cité.
Mais le problème, il est très simple, on pourrait d'ailleurs l'illustrer par des comparaisons qui nous concerne de plus près. Quand Eschyle, Sophocle, Euripide traitent de ces grands mythes, ces mythes, ils appartiennent à ce qu'on pourrait appeler le Moyen-Âge de la Grèce. Ils sont archaïques. Ils appartiennent à des époques que la Grèce connaît mal, sur lesquelles elle n'a pas d'archives. C'est exactement aujourd'hui comme si on construit une pièce à partir des débuts du Moyen-Âge. Or, comment va-t-on faire ? Les dramaturges se trouvent en face d'une époque où l'arbitraire était total, où les rois étaient des rois avec le droit de vie et de mort sur les citoyens. Ils ont donc affaire à un contexte qui est un contexte pas du tout sauvage, mais archaïque, où le roi est aussi bien un tyran, un despote, où encore une fois la cité n'a pas encore conquis le droit d'exister en tant que telle. Et comme il s'adresse à un public du 5e siècle extrêmement exigeant sur le plan de sa participation comme citoyen, très vigilant sur la question de la démocratie, il faut introduire, j'allais dire, instiller des petites doses homéopathiques de démocratie dans une histoire qui n'en comportait aucune. Imaginons Jeanne d'Arc faisant la leçon à Charles VII en disant « Mais attendez, votre décision, on va la mettre aux voix ». Vous voyez, ce serait très étrange par rapport à cette époque. Or, c'est un peu ce que fait Sophocle. Il s'agit d'introduire de la démocratie, c'est-à-dire une mentalité démocratique, dans un monde qui non seulement était archaïque, mais comme dans les femmes de Trachis, c'était peuplé même avec des monstres. Il y a des centaures, il y a des hydres, il y a des personnages monstrueux, féeriques, merveilleux ou fantastiques selon les cas. Qu'est-ce qu'on fait avec la démocratie et ces grands personnages qui ont encore, qui adhèrent encore en plein au mythe, de même qu'ils ont encore peut-être des corps de serpent ou des cornes de taureau sur la tête, qu'est-ce qu'on peut faire à la fois? Il faut s'en servir et il faut que leur présence arrive à dire quelque chose aujourd'hui aux citoyens du 5e siècle. Et je crois que Sophocle, là-dessus, a magistralement, je dirais, pas inversé, mais quand même retourné les mythes, enfin le sens des mythes, pour leur faire dire quelque chose qui était son obsession, à savoir que la démocratie, c'est le pouvoir du citoyen sur sa propre cité, sur sa propre histoire, mais comme malgré tout l'histoire, le fond de l'histoire appartient aux dieux, c'est quand même eux qui décident, il faut savoir jusqu'où le citoyen peut aller trop loin. C'est-à-dire où s'arrête le pouvoir de faire l'histoire, parce qu'il y a toujours un moment où les dieux disent « Bon, comme étant ça suffit, c'est à nous de jouer ». Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même à Athènes, l'assemblée, l'ecclésiale, au cours de ses délibérations quotidiennes, se commençait par un sacrifice à Zeus.
C'est-à-dire c'est un conflit qui va opposer la cité et les dieux.
Et qu'on retrouve tout à fait dans le théâtre de Sophocle. On le retrouve parce qu'il y a ce problème. Regardez une phrase très intéressante dans Ajax. Ajax est un héros pris à l'Iliade, hein, un véritable monstre qui fonce devant lui, qui écrase tout, qui est une force de la nature, une force qui va, aurait dit Victor Hugo. Or, Ajax, donc ce guerrier célèbre qui anéantit les ennemis, qui est valeureux, qui aurait aujourd'hui toutes les médailles militaires du monde, qu'est-ce que lui fait dire Sophocle? À un moment, quand il part au combat, son père lui dit eh bien, va et sois vainqueur, surtout affronte l'ennemi, il n'a pas besoin de lui dire, il le fait tout le temps, mais toujours avec l'aide des dieux. Phrase tout à fait normale et banale dans toutes les époques archaïques. Et qu'est-ce que répond Ajax? Il lui dit avec l'aide des dieux, alors si les dieux m'aident, j'ai plus aucun mérite. Si c'est les dieux qui se battent à travers moi, à quoi servira mon bras et mon épée? Moi, je veux vaincre avec mon bras. Je veux que ce soit mon bras et mon courage qui soient vainqueurs. Parole typiquement du 5e siècle. Revendication du soldat à l'égard de son propre courage et de sa propre victoire. Revendication du citoyen à l'égard de son pouvoir de décision en ce qui concerne sa vie quotidienne ou collective. Et on a un exemple très intéressant, comment Sophocle prend une légende ancienne, typiquement, je dirais, guerrière, épique, où les personnages, vous le savez, sont des marionnettes entre les mains des dieux, même s'ils sont vainqueurs, qui ne s'y trompent pas. C'est Athéna, c'est Apollon qui sont battus et qui leur ont donné la victoire. Ce n'est pas eux qui l'ont obtenu. Ils les ont choisis, c'est là leur mérite, mais ce n'est pas eux véritablement qui ont gagné. Alors, est-ce que c'est encore pensable, au 5e siècle avant Jésus-Christ, de voir des hommes marionnettes, n'est-ce pas, qui se battent, qui sont vaincus, qui sont vainqueurs, qui sont blessés, qui sont pas blessés, en fonction de ce que décident les dieux dans l'Olympe avec une balance? Non. Donc, il faut que, de même que le citoyen reprend le droit de contrôler sa vie civique, le soldat doit contrôler son courage et sa présence devant l'ennemi. Il doit avoir la fierté de se battre lui-même avec sa force, son entraînement, son courage, sa technique, son astuce au besoin, mais il ne doit devoir sa victoire qu'à lui-même. Et les combattants de Salamine ou de Marathon pensaient ainsi. Et c'est ça qui donne la force, je crois, enfin c'est une hypothèse, mais je crois que c'est cette pensée qui a fait que 12 000 Grecs ont vaincu à peu près 1 million de Perses, parce qu'ils étaient 12 000 contre 1 million. Mais 12 000 avec cette idée dans la tête, et 1 million qui se battent simplement comme des troupeaux de bœufs qu'on envoie à la boucherie en leur disant « vous allez tout droit puis vous foncez », eh bien vous avez d'un côté des soldats et d'autre côté des bêtes. Et c'est grâce à ça que les Grecs ont gagné, sinon c'est pas explicable. Aucun stratège ne peut expliquer une victoire d'une poignée d'hommes sur une multitude pareille. Ben je crois que c'est ça qui a fait gagner. Et que donc le théâtre est pas si loin que ça d'ailleurs de la vie civique et de la vie de la cité. L'âme du mort sort par le pied, par l'anus, par les mains. Sex, and measuring the phallus, the new chain through your corpus, the new Ça, c'est le point de vue, le premier point de vue. Le second point de vue, c'est-à-dire être maître de sa victoire, le second point de vue, c'est qu'il faut savoir l'arrêter. Il faut absolument savoir maîtriser sa puissance et son pouvoir. Alors, la puissance dans le cas militaire, le pouvoir dans le cas civique, et là, toute l'œuvre de Sophocle, c'est vraiment une réflexion de citoyen. Il n'y a de pouvoir possible que si on sait où il s'arrête, et dans le respect du pouvoir des autres. Et toute l'histoire, les histoires de Sophocle vis-à-vis du Créon, des rois, il ne discute pas le pouvoir de Créon. Il lui dit qu'il va trop loin, c'est tout. Un roi n'a pas tous les droits. Par exemple, un roi ne peut pas empiéter dans le domaine des dieux. Le problème des morts, ça ne concerne plus les vivants, ça concerne les dieux. Il faut respecter les rites funéraires. Un roi n'a pas le droit d'intervenir dans le domaine de la vie et de la mort qui n'est plus du ressort de l'homme. De même, il n'a pas le droit d'intervenir dans une cité entière, comme si elle était sa propriété. Il y a une très belle phrase que lui dit son fils, Aimon. Il lui dit quoi ? Mais avec ta théorie, autant régner seul dans un désert. Si tu considères que tes sujets ne sont pas des citoyens, autrement dit, des gens qui doivent obéir au doigt et à l'œil à toutes tes décisions, autant aussi bien les détruire tout de suite, ça reviendra au même. C'est-à-dire que on ne peut plus avoir ce pouvoir au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais quand même il en faut un, parce que Sophocle n'était pas un anarchiste. Il avait bien conscience qu'il faut à la fois un pouvoir, et que ce pouvoir doit lui-même se créer des règles claires et conscientes, et le théâtre a servi à ça. En donnant des exemples de rois démesurés, en donnant des exemples de souverains sacrilèges, il montre bien où doit s'arrêter le pouvoir, et qu'il y a à un certain moment une ivrie, c'est-à-dire une ivresse du pouvoir, qui fait qu'il devient aussi dangereux qu'un fou, enfin qu'un roi qui est en état d'ivrie, c'est-à-dire en état d'ivresse du pouvoir, et comme un fou. C'est-à-dire il est aussi dangereux pour sa cité qu'un fou. Il faut donc des rois conscients, on dirait aujourd'hui des rois qui respectent une constitution. Vous savez, Sophocle est allé très loin dans sa réflexion. Moi, en lisant des passages de Montesquieu, je me disais, bien sûr, il a lu Sophocle. L'inverse n'est en guère possible, mais il y a d'étranges rencontres. Et c'est pour ça que c'est un dramaturge qui m'a intéressé, que j'ai traduit son œuvre, parce qu'il y a une extraordinaire leçon de lumière et de conscience qui émane à travers, justement, des exemples terribles. Parce que Sophocle, quand même, il aimait bien l'horreur. Et il se disait, quand on a peur, quand c'est terrible, quand c'est effroyable, quand c'est dur, quand c'est intenable, c'est là que les paroles passent le mieux et que le message de clarté et de conscience est le mieux perçu.
Et en fait, une lumière qu'on retrouve à la fin de son œuvre, puisque c'est à 90 ans, je crois, qu'il écrit Édipe à Colonne.
C'est à 90 ans qu'il termine l'histoire d'Œdipe, qui a été la hantise, on peut dire, avec Antigone, avec toute cette série Antigone également, qui a été la hantise de la Grèce, enfin d'Athènes, disons. Le pouvoir sacrilège, le pouvoir incestueux, en plus, là, tout est accumulé. Hein. Et derrière tout cela, précisément, une cité qui s'auto-détruit par la guerre fratricide des deux frères, des deux fils d'Œdipe. Et donc, on a vraiment l'image du cancer, mais du cancer intérieur, qui grandit par incapacité des uns et des autres à savoir arrêter leur haine ou leur pouvoir. Et ça, c'est très frappant. Là, c'est la malédiction qui agit, parce qu'il avait aussi ce canevas-là. Il ne pouvait pas faire en sorte qu'en écrivant l'histoire d'Œdipe, que Kétéoque et Polynice ne se tuent pas. C'était pas possible. Encore une fois, on revient à Roland, à Rancelot, il faut qu'il meure. Donc, il a quand même un canevas qui lui est donné par la tradition, mais de ce canevas, il a fait une extraordinaire leçon de réflexion et de conscience, parce qu'il montre à quel point... Eh bien, cette mort est le fruit de la haine, le fruit de l'ivrisse, toujours, de l'ivresse, de la haine, du pouvoir ou de la force. Et que c'est cela qui condamne les cités. Au terme de ça, il n'y a plus qu'une Thèbes détruite avec des ruines fumantes, où il n'y a plus que des chiens qui se promènent dans l'eau en cherchant des détritus. C'est ça, la fin de Thèbes. Elle serait, d'ailleurs, Pasolini l'a magnifiquement montré quand il a fait du proie. J'allais dire c'est une atmosphère pasolinienne, mais c'est lui qui l'a restitué. Je crois que c'est celui qui a approché le mieux l'atmosphère terrible de Sophocle, parce que c'est pas drôle, Sophocle. C'est dur quand ça commence. On commence Antigone, n'oublions pas, la ville est au bord de la guerre civile. Il y a qu'à voir aujourd'hui comment sont des villes où les gens les ethnies s'en sont déchirées. C'est ça. Là, plus personne ne veut sortir dans les rues. En plus, il y a eu la peste. Tout ça est atroce. On imagine que les citoyens restent chez eux enfermés. Il y a un cadavre qui pourrit juste au rempart, et Antigone est la seule à dire « il faut faire quelque chose ». Et c'est ça commence dans une aube absolument, désolée, à No Man's Land, avec la mort partout, avec la désolation, avec aussi cette gangrène qui est dans les cœurs dans les consciences et dans les murs de la ville.
Et en fait, Édipe à Colonne est une grande réconciliation.
Alors Édipe à Colonne est donc la méditation qu'il a faite 30 ans plus tard, car il a écrit Édipe à Colonne 30 ans après Édipe Roy, pour savoir qu'est-ce qui se passait et que faire d'Édipe. Et là, c'est pourquoi d'ailleurs il y a plusieurs versions à sa mort. Et la version la plus, enfin je trouve la plus lumineuse en tous les sens du terme, c'est celle qu'a proposée Sophocle, car c'est Sophocle qui a proposé cette version-là. Et elle est restée ensuite pratiquement dans l'histoire, étant donné qu'il est né à Colonne, c'était sa terre natale qu'il aimait beaucoup. Inutile de vous dire que ça ressemble pas à ce qu'est Colonne aujourd'hui, qui est une station d'autobus en plein milieu d'Athènes maintenant. À l'époque, il y avait des bosquets d'oliviers, et c'était des sources, et c'était une toute petite campagne, avec un temple des Huménides, des Bienveillantes. Il a donc fait mourir ou disparaître Œdipe à cet endroit-là, réconcilié avec lui-même, réconcilié aussi avec les citoyens, grâce à une sorte de, on peut dire, de psychodrame ou de confession publique. Et surtout, qu'est-ce qui décide qu'il est réconcilié, qu'il est désormais réadmis, qu'il n'est plus un mendiant errant et maudit, qu'il n'est plus un galeux, qu'il n'est plus un lépreux? C'est le chœur composé de 12 citoyens d'Athènes qui délibèrent et qui disent, eh bien, moi je l'absous, moi je l'absous, moi je l'absous. Voilà.
Sophocle qui est réconcilié avec les dieux.
C'est Œdipe qui est réconcilié lui-même avec les dieux. Et savez-vous comment il meurt? C'est extraordinaire, la mort d'Œdipe. C'est la première mort dans l'histoire ou dans la mythologie, d'un homme qui ne laisse pas de corps sur la terre. Parce que c'est la réconciliation d'un homme qui a été le maudit par excellence, avec une cité qui, parce qu'elle est démocratique, a seul le droit de l'accueillir et de l'absoudre. Ce qui fait que Œdipe à Colonne se termine, je dirais, dans la première lumière mystique de l'Antiquité.
Molière, le dramaturge combattant ou le fauteuil d'argan, avec Alfred Simon. Sur scène, Molière met en jeu son triple rôle d'acteur, d'auteur et de metteur en scène. À la société de son temps, il dit son parcours d'artiste, livre des fragments de sa vie d'homme. Dans le lieu et le temps de l'illusion, c'est-à-dire celui qu'est le théâtre, un soir, sur le fauteuil d'argan, Molière va jouer et joue le malade imaginaire. La grande comédie prend fin quelques heures plus tard. Alfred Simon, une scène qui, pour Molière, est à la fois miroir d'une époque, d'une société, mais encore reflet de toute la vie et de toute l'œuvre de Molière.
Oui, c'est ce qui fait de lui, bien sûr, un auteur engagé. Mais en même temps, disons que pour nous, modernes, le mot miroir est un mot délicat à manier, parce que, si vous voulez, le théâtre est un miroir de la société, mais pas au sens réaliste, pas au sens naturaliste du mot, hein, ou au sens où le théâtre reflèterait la société, comme il pourrait éventuellement refléter la personnalité de Molière, d'une manière réaliste. Autrement dit, Molière n'est pas un pionnier du théâtre naturaliste avant la lettre. Il n'est pas le précurseur d'Antoine, je dirais. Enfin, voilà. Non, le mot « miroir », c'est le miroir, évoque immédiatement les jeux de miroir, le kaléidoscope d'images dont on parlera à propos de Genet. Et j'ai pris conscience, en m'enfonçant dans l'aventure de Molière, à quel point il y avait des rapprochements, des analogies à faire avec ce qu'il y a de plus moderne dans notre perspective à nous, en particulier ces jeux de miroir et donc un certain théâtre, dont le théâtre de Genet, pour nous, est le symbole. Alors des pièces comme Le bourgeois gentilhomme, par exemple, ou La princesse des Lides, les comédies-ballets prennent un relief extraordinaire. On se rend compte à quel, qu'on les a injustement dédaignés, qu'on les a minimisés.
Jean-Molière, il y a à la fois donc justement ce jeu de miroir, mais aussi un jeu de masque. C'est-à-dire que le masque est quelque chose qui est très important sous le siècle de Louis XIV.
Oui, pour toutes sortes de raisons. Le jeu de masque découle d'ailleurs du jeu de miroir. Je crois que c'est dans le miroir que le masque apparaît pour la première fois. Je veux dire que le sujet, l'être, se regarde dans la glace et il voit l'autre qui vient à sa rencontre, qui est lui et qui n'est pas lui, parce que l'homme n'est jamais lui-même. Le masque, c'est ce qui nous sépare de nous-mêmes, c'est l'impuissance, l'impossibilité d'être pleinement nous-mêmes. Et puis il y a l'ambiguïté, l'ambivalence du masque, enfin le fait que le masque me nie, enfin, je me cache, me dissimule, hein, et puis en même temps il révèle un autre. Il révèle l'autre qui est en moi, il révèle le personnage. Et tant que je n'ai pas trouvé mon personnage, je ne suis pas acteur de la pièce que je prépare, de la comédie que je prépare. Alors tout cela, bien sûr, enrichit le théâtre de Molière, d'autant plus, comme vous l'avez signalé, que ce jeu de masque, il est essentiel à la compréhension de la société dans laquelle vit Molière, avec ses deux versants, voilà, la France profonde, comme on dirait aujourd'hui, la France populaire, enfin, la France des paysans, des petites gens pour lesquels il a joué pendant plus de 15 ans, hein, et donc le public populaire, et puis d'autre part, le public de la cour pour lequel il joue aussi, et savoir si l'unité, la rencontre unitaire peut se faire entre ces deux publics-là, quelque part, et où et à quel niveau elle se fait. La société de cour est une société de masques. Et d'autre part, l'époque de Molière et de Louis XIV, les deux, je veux dire, la responsabilité des deux est engagée dans cette histoire. L'époque de Molière et l'époque de Louis XIV, c'est l'époque qui assiste à la disparition totale, définitive, du masque de théâtre en Europe. Je veux dire que la Commedia dell'arte, dont Paris est la seconde patrie, et même la vraie patrie à partir, justement, à l'époque de Molière, la Commedia dell'arte, c'est la dernière forme du masque que le théâtre occidental est connu, et quelque chose que, par exemple, un grand réformateur du théâtre comme Gordon Gregg considérait comme une décadence, un déclin inéluctable. Enfin, le théâtre, pour lui, le théâtre occidental s'était condamné au déclin à partir du moment où il avait renié le masque. Or, les masques vont disparaître, mais en même temps, les visages deviennent des masques. Et Molière, le contemplateur, regarde ce phénomène se produire devant lui et il en tire les conclusions qui s'imposent.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, une certaine douleur chez lui de rendre compte de ces masques qui sautent et en même temps de faire rire les honnêtes gens qui, eux, sont à l'image de ces masques ?
Bien, c'est une étrange entreprise. Elle a failli avoir sa peau, elle l'a fini d'ailleurs par l'avoir, je pense. Il s'en est rendu compte, pas dès le début. On voit bien que, on le voit au niveau des pièces critiques qui sont elles-mêmes des jeux de miroir, où il joue à être ce qu'il est, enfin, où il joue à être Molière, comme la critique de l'école des femmes et l'impromptu de Versailles. On le voit bien, Molière a découvert progressivement et principalement dans la querelle de l'école des femmes, et puis bien sûr dans l'affaire Tartuffe, il a découvert que le jeu qu'il croyait un jeu comme les autres, divertir les honnêtes gens en les aidant à se guérir de leurs défauts, hein, castigat ridendo mores. Bon, c'est-à-dire le castigat ridendo mores était bien entendu un alibi. Il s'agissait d'abord de faire rire les honnêtes gens. À un certain niveau, je crois que Molière a pris conscience que la comédie volait trop bas, qu'il fallait... Et la comédie, au vrai sens du mot, c'est-à-dire la farce, mais que la farce elle-même pouvait s'accommoder d'un jeu plus élevé et contenir une part essentielle de vérité humaine. Alors il a cru qu'il pouvait le faire et que les gens riraient, trouveraient ça très drôle et en même temps comprendraient que c'était sain pour eux, n'est-ce pas, d'une certaine manière, de rire cruellement d'eux-mêmes, car ils riaient d'eux-mêmes. Eh bien, il y en a qui ont mal pris ça. Et ces gens-là étaient très puissants et ont failli nous priver de Molière auteur. Il ne faut pas s'illusionner.
Ce sont les dévots.
Ce sont les dévots, bien sûr. Oui, mais ce sont les dévots. Bon, à l'époque de Molière, ils sont dévots de la religion, de l'Église, de Dieu. Hein. Ils se servent des valeurs religieuses, mais ces dévots-là peuvent exister et existent dans toute société, qui tend à dominer entièrement, à nier d'ailleurs la personnalité des individus, à ne les reconnaître que comme masse, hein, et à les endoctriner complètement, c'est-à-dire faire que tous les actes de la vie quotidienne soient des actes chrétiens. Ah bon, ça porte un nom, ça s'appelle l'intégrisme. Ça porte un autre nom, ça s'appelle le totalitarisme. Tous les intégrismes sont totalitaires, tous les totalitarismes sont intégristes. Voilà. Bon, eh bien, ça aussi, ça fait probablement... Vous savez, hein, quelquefois, on se rend compte que, par exemple, l'Angleterre est le seul pays à avoir une dramaturgie qui la théâtralise, qui théâtralise son histoire avec Shakespeare. Les chroniques de Shakespeare sont une chose absolument unique dans l'histoire du théâtre. Et nous sommes, nous Français, terriblement frustrés de ce côté-là, n'est-ce pas, la dramaturgie de la Révolution française, la dramaturgie de l'épopée napoléonienne, par exemple, ou de la Commune, n'a jamais pris corps, n'a jamais existé, parce qu'elle n'a jamais eu son Shakespeare, mais inversement, aucun autre pays n'a eu, le dramaturge, l'auteur comique, qui justement fasse de la comédie avec ce qui a été un de ces qui est un drame permanent d'une part de la condition humaine, d'autre part des rapports de l'homme avec la société, à savoir, n'est-ce pas, ce poids de l'autorité sur les consciences au nom des valeurs.
Mais est-ce que cette lutte contre le fanatisme.
Ah,
c'est ce que vous dites dans votre livre. Est-ce que justement cette lutte contre le fanatisme ne va pas mettre Molière, à la fois Molière autant qu'acteur, en tant qu'acteur et en tant qu'auteur, en danger ?
En double danger. D'une part, le mettre dans l'impossibilité de s'exprimer, hein, à savoir que on sait très bien, d'une part, le pouvoir interdit les pièces. Ces pièces, c'est l'œuvre même de Molière, et il en a pris conscience dans l'affaire Tartuffe, dans le second placé au roi, quand il dit au roi, bien sûr, il faudra que j'arrête d'écrire si les dévots sont les plus forts dans cette histoire. Bon, d'une part, il y a ça, on l'empêche d'écrire son œuvre, puis ensuite on ferme les théâtres. Et le troisième niveau, il l'a frôlé. Après tout, il n'y a pas le dernier cas de dissident, de mal-pensant brûlé en place publique pour ses idées subversives n'était pas si lointain. Donc Molière a frôlé la prison avec un autre monarque, peut-être il l'aurait connu, hein, et aussi au-delà. Mais il a mis Molière en danger encore autrement. Savoir que, puisque ce jeu devenait un jeu tellement sérieux, tellement grave, hein, c'est le centre de l'affaire Tartuffe, Molière n'a pas inventé Tartuffe. Il ne l'a pas non plus rencontré dans un personnage qui lui aurait servi de modèle. Ça, c'est une vision réaliste de la manière dont travaille un créateur. Mais il a rencontré Tartuffe, c'est-à-dire que Tartuffe était à tous les coins de rue. Le dévot, le fanatique, était partout. Il était même pire. Enfin, il était en chacun des interlocuteurs de Molière, et à certains moments, il était en Molière lui-même. C'est ça qui est effrayant. Enfin, donc, il a très bien compris, il a très bien vu comment on devenait un fanatique et que tout le monde était en danger de devenir un fanatique à un moment ou à un autre. Un fanatique, c'est-à-dire quelqu'un qui est absolument sûr de posséder la vérité, de la posséder tout entière et de la posséder à lui tout seul. Donc l'autre n'existe pas. Il est la vérité, il s'identifie à la vérité et au nom de la vérité, il vous condamne. Alors, ceci a mené Molière, à partir du moment où il s'est trouvé sur la route de Tartuffe, voilà, le masque, où il a rencontré le masque de Tartuffe, à partir de ce moment-là, la comédie devenait impossible, presque. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il est arrivé à... Et c'est le plus grand Molière. C'est avec le Tartuffe, avec le Don Juan et avec le Misanthrope, et surtout avec le Misanthrope, il arrive à une limite. Au-delà, c'est fini. La comédie est morte. Déjà, le Misanthrope est à la limite de la comédie. Et quand c'est Vitesse qui met en scène le Misanthrope, il n'y a plus de comédie du tout. Il y a une tragédie. Le Misanthrope devient une tragédie. Alors, Molière s'est rendu compte, je pense que ça d'ailleurs, c'est la fin de l'affaire Tartuffe, il y a toutes sortes d'éléments qui entrent en jeu, mais l'un des plus importants, c'est certainement cette prise de conscience que s'il continue dans cette direction-là, il est foutu. Parce que il se rend compte, il est, comme acteur, comme auteur, fondamentalement un comique. Et il est arrivé à une limite. Par sa faute, c'est lui-même, c'est ça, qui s'y est conduit. Il est arrivé à une limite où la comédie n'est plus possible. Où elle se retourne dans le contraire d'elle-même. Et donc, tout ce qu'il avait à dire au théâtre, il l'avait dit, il s'arrête. Il n'écrit plus pour le théâtre. Oh, il y a d'autres exemples, je pourrais vous en citer, mais ils sont presque... Oui.
Et en fait, dans Le Bourgeois Gentilhomme, qui va succéder justement à la grande entreprise...
Je pense, c'est ça, c'est que l'entreprise de l'auteur-acteur engagé, n'est-ce pas, l'entreprise de l'artiste engagé est terminée. Mais Molière opère un retournement extraordinaire par le principe de la comédie-ballet. Et ce principe de la comédie-ballet n'est pas un principe théorique. C'est incontestablement, une prise de conscience, un changement total. La conscience que le monde est un théâtre, que l'homme est un acteur, que la vie est un jeu de masques, et que tout est comédie. Et non seulement, alors comédie et folie, n'est-ce pas ? Les plus fous sont les plus sages, et dans une société où tout le monde est fou, celui qui est le plus fou de tous, c'est celui qui se croit sage et qui croit échapper à la folie. Et là-dessus, en effet, il va bâtir le Bourgeois Gentilhomme, Monsieur de Pourceaugnac, et pour finir, Le Malade Imaginaire, bien entendu.
Et en fait, Molière, lorsqu'il meurt sur le fauteuil d'Argan, ne se cache plus sous le masque, puisque c'est l'homme qui meurt dans l'illusion, en fait.
Oui, bien sûr, mais c'est facile de... On peut tomber facilement dans la carte postale et dans le cliché lorsqu'on évoque la mort de Molière, puis en même temps, il n'est pas possible de l'escamoter. C'est-à-dire, nous sommes en présence du destin. C'est là que la vie et l'œuvre de Molière se mêlent, que l'anecdote, n'est-ce pas, sous-tend l'acte théâtral qui est en train de se dérouler. Mais il n'y a pas moyen de l'escamoter. C'est le destin. Là, Molière meurt à visage découvert alors qu'il porte le masque. Il meurt sous le masque et en même temps, il est à visage découvert. C'est-à-dire que si on enlève le masque, il n'y aura plus que la tête de mort. Ben c'est la question qui était posée depuis le début, en dessous du masque. Qu'est-ce que c'est qu'un masque ? C'est d'abord une tête évidée. Il n'y a rien dessous. Faire un masque, c'est d'abord enlever tout ce qu'il y a en dessous. Hein. Et ensuite, il recouvre le visage. Si vous l'enlevez, il n'y a plus rien. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a ?
In principio erat.
Théâtre du moi, théâtre du monde, avec Jean-Pierre Sarrazac. De Strindberg à Beckett, de l'intimité de l'amour à l'intimité de la mort, l'écrit autobiographique, le récit de vie nourrit la dramaturgie de la subjectivité. Roger Planchon, bien sûr, vous êtes metteur en scène et vos préoccupations concernent à la fois l'écriture dramatique et l'écriture scénique.
Ce qui m'a fasciné au théâtre, véritablement, ce qui est devenu de plus en plus aigu pour moi, c'est d'essayer de réfléchir sur ce que c'était que l'écriture théâtrale. C'est-à-dire, je suis très persuadé qu'il y a une spécificité de l'écriture théâtrale. Que la bonne écriture théâtrale, ce n'est pas du roman, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas... Enfin, c'est une chose qui existe en soi et qui fonctionne en soi. Et on peut être un très grand auteur et écrire de très mauvaises pièces, malgré qu'on soit un homme profond, parce qu'on n'a pas assez réfléchi à ce qu'est la spécificité de l'écriture. Et il y a des auteurs que j'admire profondément, dont même je ne suis pas tellement d'accord sur les thèmes qu'ils traitent, mais qui sont des vrais écrivains de théâtre, c'est-à-dire qu'ils ont ce petit secret, qui est qu'au théâtre, il y a une façon dont le temps passe, dont la réalité avance, qui n'appartient qu'au théâtre et qu'on ne peut trouver ni dans le roman, ni ailleurs, ni dans la poésie, etc. Et cette espèce de déchirure qui est à l'intérieur du cœur du théâtre est pour moi fondamentale. Il y a par exemple, j'admire profondément les auteurs qui sont capables de mettre un abîme entre deux répliques. Que d'écrire des dialogues, c'est un exemple que je vous donne, où apparemment les répliques se répondent et en vérité elles ne se répondent pas. Or, seuls les très grands auteurs savent faire ça. Et ça m'a fasciné toute ma vie, d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que c'est, enfin, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, l'écriture théâtrale.
Et à travers quels auteurs il y a cette satisfaction?
Ils sont nombreux. Mais enfin, oui, bien sûr, on va citer tous les plus grands, mais bien sûr, Shakespeare a été pour moi fondamental, les Grecs aussi, bien sûr. Mais même, par exemple, j'admire profondément Pinter pour ses qualités d'écriture. Pour moi, c'est un grand auteur parce qu'il a des grandes qualités d'écriture, en fait, d'écriture théâtrale. C'est un auteur de théâtre. Ce qui est, si vous voulez, on peut considérer, par exemple, pour prendre des morts célèbres, que Gide est un grand auteur, mais quand il écrit une pièce, ce n'est pas un grand auteur, c'est le contraire. Il n'est pas rentré dans cette espèce de spécificité. Il n'a pas saisi cette chose-là. Même après, ça m'ennuie de citer des gens que j'aime moins. Mais il y a des auteurs, par exemple, dont on dit l'œuvre est immense, c'est des grandes œuvres poétiques, etc. Oui, ils ont écrit un théâtre qu'on appelle poétique. Et en vérité, ce n'est pas du théâtre. C'est trop près de la poésie pour être encore du théâtre. Il faut écrire cette espèce de chose très rare qui soit à la fois de la poésie et en même temps qui est éloigné de la poésie.
Jean-Pierre Sarrazac, vous êtes auteur dramatique. Vous avez publié des essais sur le théâtre et notamment un très bel essai « Théâtre intime » qui explore la dramaturgie de la subjectivité. Alors, est-ce que cette dramaturgie ne met pas en scène davantage le moi de l'auteur que des personnages qu'il crée ?
La dramaturgie de la subjectivité, je crois qu'il ne faut pas l'entendre comme une dramaturgie, disons, du nombril, comme une dramaturgie du repli sur soi, solipsiste. La dramaturgie de la subjectivité, c'est peut-être au contraire une nouvelle façon de faire un théâtre du monde. le moi dans sa quête du monde, le moi accueillant le monde, la psyché accueillant le monde à l'intérieur d'elle-même, quitte en elle-même en exploser. Alors effectivement, c'est Strindberg, l'initiateur de cette dramaturgie de la subjectivité, ou de ce que j'appelle le théâtre intime. En novembre 1907, Strindberg peut enfin, à Stockholm, près de la gare, dans un quartier populaire, créer son propre théâtre. Bon, c'est un théâtre minuscule, 160 places, tout à fait modeste, et qu'il va appeler l'Intimate Theatern, le théâtre intime. Dans ce théâtre intime, il va faire représenter, l'expérience va durer trois ans, il va faire représenter des pièces qu'il écrit pour la circonstance, qu'il appelle ses pièces de chambre. Dans ce théâtre, par exemple, la pièce Orage qu'avait monté Strehler en italien il y a quelques années à Paris, et puis également la fameuse pièce La Sonate des Spectres. Alors ce qui est intéressant, c'est le mythe que représente le théâtre intime pour nous aujourd'hui, comme fil rouge de toute une dramaturgie qui court depuis Ibsen, Strindberg et qui atteint aujourd'hui bien sûr Beckett ou Duras ou Thomas Bernhardt ou Hartenbusch en Allemagne. En effet, il inaugure ici plus qu'un théâtre, plus qu'un lieu théâtral, mais une façon de concevoir le théâtre. Théâtre intime, c'est un théâtre de chambre, si l'on veut, à l'exemple de Reinhardt. C'est un théâtre de la proximité, mais d'une sorte de distance à la proximité avec les spectateurs, parce qu'on va leur révéler des choses fortes, et que donc ils sont un peu comme les disciples du Christ au Mont Tabor, enfin ils sont inquiets. Dans le poème inaugural au théâtre intime, Strindberg leur dit, de sa façon d'intimer aux gens, d'être intimidant aussi à l'égard des gens, il leur dit, écoutez bien, ce qui va vous être révélé, ces vérités qui sont celles de ma vie et donc de la vôtre, mais surtout taisez-les. Il y a une dimension de, comme ça, d'initiation, qui est un rituel aussi. Mais c'est un théâtre de chambre, ce théâtre intime, mais c'est surtout une dramaturgie, une nouvelle façon d'écrire le théâtre que Strindberg a inauguré, on peut dire presque dès ses premières pièces, en tout cas Mademoiselle Julie et même avant Père. Un théâtre de l'intimité, parce que c'était un théâtre, on pourrait dire, de la scène conjugale. Vous savez, c'est Barthes qui disait que tant qu'il y aura des scènes de ménage, il y aura des questions à poser au monde. Hein. Là aussi, relation entre l'intime et puis le social, le cosmique, etc. C'est donc intime en ce sens-là, mais c'est aussi l'intimité de soi avec soi-même. Je crois que là, je suis obligé de faire un saut et de parler de quelqu'un d'autre qui figure dans mon livre Théâtre intime, qui est Pirandello. C'est Pirandello qui a merveilleusement mis en relief l'éclatement de la psyché humaine. Il dit avec celui, c'est le père dans ces personnages, qui dit avec un tel je suis un, avec l'autre je suis un autre, et je suis autant de fois un, je peux jusqu'à 100, jusqu'à 1000, jusqu'à 1 million que je rencontre de personnes différentes. Là, je pourrais prendre une formule de Beckett. Il parle d'un personnage, c'est dans une de 7 fois, une pièce, une des dernières pièces de Beckett, où il dit je devisais tout seul, et aussitôt après, dans la même phrase, je me divisais en plusieurs. Hein? Et c'est-à-dire que on parle, on s'entretient avec soi-même, mais on s'entretient avec tous les soi-même, avec le concert discordant des personnes, des identités qu'on porte en soi.
Il y a à la fois une forme d'autobiographie et de projection de son moi sur la scène.
Absolument. Bon, alors, le théâtre de Strindberg, c'est là où Steiner le trouvait scandaleux. Le théâtre de Strindberg, c'est effectivement un théâtre de la confession dramatique. Strindberg au théâtre, c'est Rousseau. Alors, c'est un Rousseau doublement scandaleux. Il se met à nu, mais Rousseau ne l'a fait que, disons, dans la prose romanesque, enfin bon. Alors que Strindberg le fait sur la scène, dans un lieu normalement où l'auteur doit être absent. L'auteur, il se cache en coulisses dans le théâtre. L'auteur, il se dissimule complètement derrière ses personnages. Alors que Strindberg va inaugurer un théâtre de l'auteur présent sur la scène, et je dirais de plus en plus présent. Il est présent parce qu'il raconte sa propre vie, c'est-à-dire que entre les fameux récits autobiographiques de Strindberg, où d'ailleurs il prend de la distance, parce qu'il parle de lui à la troisième personne, et il parle d'un personnage qui s'appelle Jean. Alors Strindberg s'appelait Jean-Auguste, mais on l'appelait Auguste. Il prend donc son second prénom, si vous voulez. Bon. Mais il parle de lui à la troisième personne. Et dans le théâtre, alors là, il fait le mouvement inverse, c'est-à-dire il va amener toute la matière de sa propre autobiographie sur la scène, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans Le Fils de la Servante, dans ses autres écrits autobiographiques, y compris Inferno, y compris Le Plaidoyer d'un fou. Il amène cette matière autobiographique et qui prend sur la scène, traduite en réplique, en dialogue, une violence et une crudité très grande, bon, la crudité de créancier, de plus tard de La Danse de mort.
Dans votre essai « Théâtres intimes », vous notez en exergue une phrase de Kafka dans laquelle il y a justement cette tension entre le monde subjectif et celui du moi et le monde extérieur objectif. Il y a une tension entre l'homme et le monde.
Tout à fait, tout à fait. Je crois que ce combat entre le moi et le monde, à mon avis, est l'enseigne du théâtre le plus fort, du théâtre qui nous concerne le plus. C'est l'enseigne, à mon avis, du théâtre de Shakespeare. Enfin, simplement, aujourd'hui, on est beaucoup plus coupé d'une dramaturgie d'une telle envergure, d'une dramaturgie de l'histoire. Le théâtre s'est peut-être replié sur des terres plus privées en apparence, plus intimes. Mais à partir de ce repli, on peut se réouvrir au monde. Hein. C'est le fameux poème de Rilke où il dit « Le monde est vaste, mais en moi, il est profond comme la mer ». Alors, ce qui est important, c'est que, là encore, il faut bien démarquer cette idée de théâtre intime de celle d'un théâtre intimiste, comme je disais tout à l'heure, d'un théâtre du nombril, on pourrait dire d'une dramaturgie du cocooning. Hein. On pourrait s'en aider pour bien montrer la frontière. C'est Brecht qui opposait le naturalisme et le réalisme. Bon, alors il disait, le naturalisme, c'est un art de la discrétion. On reste en bordure des choses, en voyeur un peu, on se fait oublier. L'auteur lui-même est un voyeur de ses personnages. Le théâtre réaliste, lui, c'est un art de l'indiscrétion. C'est-à-dire que l'auteur fait une entrée fracassante dans le monde des personnages et il intervient, en quelque sorte. Et je crois que le théâtre de Strindberg est de cet ordre-là. Vous savez, je pense par exemple à la Sonate des Spectres. Qu'est-ce qui se passe dans la Sonate des Spectres? On voit un personnage, l'étudiant, puis un personnage de vieillard, de personnages qui se rencontrent devant un immeuble. Et puis, le vieillard va raconter à l'étudiant tout ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble. C'est-à-dire que le vieillard a des sortes d'yeux particuliers. Vous savez, on disait toujours que de Strindberg, il avait des yeux de chat, des yeux qui hypnotisaient. C'est vrai, il avait des yeux très impressionnants, de chat siamois. Et il avait des yeux qui avaient la propriété, je dirais, de regarder à travers les murs. Et en particulier, de regarder à travers le mur de la vie privée. De regarder ce qu'il y a derrière la façade. Il y a une pièce qui est superbe, qui est la maison brûlée de Strindberg. On voit un personnage qui s'appelle l'étranger, qui a vécu dans une maison, qui revient devant sa maison natale, mais il est parti depuis 20 ans ou 30 ans, et la maison vient de brûler. Alors les gens cherchent dans les décombres. Et lui-même va chercher dans les décombres et va se reconstituer toute l'existence de tous les gens de l'immeuble et sa propre existence, voyez. Comme dans le théâtre antique, il y avait des personnages qui avaient la possibilité de regarder à travers les murs, de raconter ce qui se passait à l'intérieur des palais, par exemple, en restant sur le seuil. Bien, Strindberg, il a cette faculté antique, on pourrait dire, du théâtre.
Il y a aussi ce moi et cette errance qui, de Strindberg à Beckett, va s'ouvrir sur la mort et, dans ce que vous dites, bien sûr, dans votre livre, va s'adresser aussi à un retour inerte de la matière inanimée.
Oui, oui. Effectivement, beaucoup des pièces contemporaines, je pense bien sûr à celles admirables de Beckett, et tout particulièrement aux dernières pièces de Beckett qui sont très épurées, comme « Cette fois, pas moi », etc. Ce sont les pièces d'un trépas. C'est un trépas, une agonie qui est mise en scène. C'est vraiment l'instant de la naissance et l'instant de la mort qui sont le même instant, en fait, qui forment une boucle complètement fermée. Et des personnages sont dits « mourants de l'avant ». Hein. Le temps du théâtre, c'est celui d'une mort de l'avant. Alors, je dis quand... Quand je travaille Strindberg ou Beckett, d'ailleurs avec des comédiens par exemple, je leur dis, bon ben vous regardez Strindberg, vous allez voir, vous le regardez un peu à la loupe, et c'est Beckett qui apparaît. Vous avez une pièce qui est la pièce des pièces chez Strindberg, que j'ai montée à la Comédie de Caen il y a deux saisons, qui est Le Songe, mais vous en avez une autre aussi qui est Le Chemin de Damas. Enfin, ces deux pièces, qu'est-ce que ça raconte? Surtout, peut-être, Le Chemin de Damas, c'est un itinéraire dramatique, c'est un chemin de croix. Une vie, la vie de l'inconnu, racontée comme un chemin de croix. 14 stations, racontées aussi comme une conversion, c'est-à-dire qu'à la 7e station, il se passe quelque chose, comme pour Paul. Mais on pourrait dire que Beckett, c'est le voyage aussi, mais le voyage qui est devenu immobile. Vous savez, il y a ce texte de Beckett, on dit « Adosse-toi aux oreillers et voyage ».
Dans la dernière bande.
Où le personnage réécoute des enregistrements de lui-même, enfin une sorte de cérémonie anniversaire, où il s'aperçoit bien qu'il se rapproche de la mort tout à fait façon guillerette, on peut dire. Non. Eh bien, le théâtre de Beckett, c'est effectivement le drame itinérant, la pérégrination dramatique strindbergienne, ou qui sera celle du théâtre expressionniste, mais résumé à l'immobilité. Vous savez, ce qui hante déjà Strindberg, c'est la répétition du même. Dans Le Songe, c'est une pièce structurée comme un rêve, et où la répétition, Kierkegaard dit comme puissance terrible, et le véritable fatum. Hein. Eh bien, Beckett, c'est presque au-delà de la répétition. Hein. C'est une sorte d'immobilité extrêmement vibrante. Et alors, si vous voulez, chez Strindberg, vous avez au fond le personnage qui se scinde en plusieurs sur le plateau. C'est évident que dans Le Songe, par exemple, Strindberg est présent au moins sous trois personnages masculins, sans doute sous un personnage féminin, et je ne prends que les personnages principaux. En fait, il est présent partout. Lui-même parlait d'une parthénogénèse de son âme. Hein. On en revient à ce que je disais à propos de Pirandello tout à l'heure. On se met en plusieurs. Mais se mettre en plusieurs, c'est exactement l'expression qu'emploie Beckett. Voyez la concordance. La différence, alors Beckett dit se mettre en plusieurs et parler dans la nuit. L'enfant vieillit et les voix qui trompaient son ennui, sa peur, vont devenir des voix obsessionnelles, vont devenir la voix des parcs, des moires, vont devenir des voix qui l'attirent vers la mort, qui l'hypnotisent, enfin la mort qui l'hypnotise. La différence, si vous voulez, le chemin parcouru de Strindberg à Beckett, c'est pas un progrès, mais c'est peut-être vers une épuration de plus en plus grande de cette cérémonie des adieux. C'est-à-dire que chez Strindberg, on reconnaît Strindberg sous les traits de tel personnage, par exemple un officier dans Le Songe, sous le trait de l'avocat aussi dans Le Songe, sous les traits du poète. En quelque sorte, il y a encore place pour une certaine anecdote, pour un état civil des personnages. Chez Beckett, le dispositif est beaucoup plus liturgique, beaucoup plus épuré, c'est-à-dire qu'on voit un personnage qui s'appelle Le Souvenant, vous voyez, des choses sont clairement énoncées, et puis des voix, trois voix, et qui sont les voix qui ont toujours parlé en lui depuis son enfance.
Un peu comme des fragments.
Alors, on est entré, c'est cette épuration, le sens de cette épuration, c'est qu'on est entré dans une dramaturgie du fragment, mais vous savez, Strindberg disait déjà, c'est un fragment, la vie, dont on ne connaît ni le commencement, ni la fin. C'est-à-dire qu'il avait le sens tragique de la vie. Et je crois que ce sens tragique de la vie, qui émane des pièces de Strindberg, eh bien, Beckett ne faisait dans ses pièces que l'exalter encore.
Am Anfang, in my beginning. Ach, in principio erat!
Au foyer vital de la scène, l'incarnation nécessaire avec Maria Cazares.
In!
Comme l'entend Bernard Dort, la dramaturgie est non une science du théâtre, mais une conscience et une pratique.
discuté, rêvé par le metteur en scène, le dramaturge, traducteur, adaptateur, conseiller littéraire. Les interprétations possibles d'un texte fabriquent du sens et donnent vie à une œuvre identique à elle-même et pourtant chaque fois différente dans son incarnation réinventée. C'est donc au comédien-interprète que revient en définitive la responsabilité même du sens au moment où il livre le texte au public. Maria Cazares, lorsque vous êtes confrontée à un texte, comment se passe cette première rencontre ?
Mais la première rencontre, c'est la lecture, bien sûr. La lecture du texte et ce qu'il vous évoque, ce qu'il évoque en vous, ce qu'il éveille en vous. Sentir, si vous voulez, une sympathie poétique avec le texte, d'un côté, et d'autre part, si l'univers poétique qui nous est proposé vous incite à un grand voyage, puis un voyage en profondeur, non pas simplement un voyage touristique où on regarde les sites, mais chaque site, essayer de le fouiller, de voir ce qu'il y a en profondeur, de côté, pour pouvoir, pour inventer, réinventer, c'est à la fin, mais d'abord essayer de rejoindre à tout prix, à travers ce qu'on lit, n'est-ce pas, le créateur de cet univers-là. Le rejoindre complètement pour pouvoir après être libre de, on pourrait presque dire inventer. Parce que, en fait, c'est de réinventer, mais d'inventer aussi et être libre parce que si on est tout proche de la personne qui a créé ce texte, enfin de l'auteur, l'invention est juste. Et moi, j'ai toujours l'impression que tant que je ne pouvais pas inventer, c'est que je n'étais pas entré dedans. Il fallait que la sensation de pouvoir inventer est dans le sens du texte, non pas inventer des choses personnelles pour un petit numéro personnel, non. Dans le sens du texte, inventer, c'était réinventer son univers à lui. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire, je trouve, dans le cheminement pour aller à une pièce. Parce qu'après, jouer, c'est autre chose. J'aime beaucoup moins ça. Mais toute la période des répétitions, la période de recherche et la période d'essayer d'après, s'il est possible, avec l'instrument qui est le nôtre, qui est d'ailleurs notre corps, notre voix, notre physique, enfin notre manière de parler et tout, si cette espèce de personnage, qui pour moi n'en est pas un dans les grandes pièces, c'est plutôt une clé, un sésame pour entrer dans un monde. Mais il faut avoir naturellement soi-même les choses nécessaires pour pouvoir incarner ce soi-disant personnage.
Justement, vous parlez de rythme. Est-ce que le rythme pour vous est quelque chose d'important ?
Ce qui m'étonne souvent, c'est qu'au théâtre parlé, non pas l'opéra, on ne pense pas autant qu'il le faut à la musique. Je crois qu'elle est très très importante. Trouver la musique du texte, donc le rythme si on veut, parce qu'on parle beaucoup de rythme au théâtre, mais c'est pour ne pas ennuyer le monde, souvent. Tandis que je crois qu'on arrive plus facilement à ne pas ennuyer le monde quand on essaie de trouver et d'épouser les vagues, les vents, les tempêtes, les accalmies et les silences du texte. Il y a des textes qui sont presque évidents. Parce qu'il y a des auteurs qui, quand ils écrivent un texte pour le théâtre, on dirait qu'ils l'ont pensé, qu'ils l'ont joué en eux. C'est-à-dire qu'ils l'ont respiré. Parce que cette musique et ce rythme, à la base, il y a la grande respiration du texte. Par exemple, mettons Claudel, c'est un texte respiré de telle manière par lui-même qu'il est difficile de ne pas se laisser aller. Et quand, en revanche, on se laisse vraiment aller à cette musique de son texte, c'est très extraordinaire parce qu'il suffit de respecter les virgules, les versets, et pour arriver à l'émotion sans que toutefois on pense à une émotion psychologique. On arrive à une émotion.
L'émotion est déjà contenue
Elle
dans la forme.
Elle est déjà contenue dans la musique du texte. Et ça, c'est assez extraordinaire.
Et les mots, parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui est comme un peu un sculpteur, vous taillez les mots.
Oui, enfin, j'ai toujours aimé les mots. Je trouve, en plus, je crois qu'à cause de mon exil et du fait qu'il a fallu que je trouve dans une autre langue que la mienne l'esprit de notre pays, parce que c'était ça qui était important, en dehors du fait de, bon, d'avoir de l'accent ou ne pas avoir l'accent, parce qu'il n'y a rien de plus différent, de plus parallèle que l'esprit espagnol, l'esprit français, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que pour un espagnol, c'est presque plus facile de retrouver l'esprit russe, qui est là l'opposé, que non l'esprit français, que comme le français pour l'espagnol. C'est comme des parallèles. Et quand par hasard, dans mon travail, que ce soit au théâtre, que ce soit avant, quand je cherchais à parler français, mais à penser français, quand je sentais qu'à un moment donné, la parallèle, en fait, la ligne droite que je suivais s'incurbait pour aller toucher celle que je voulais toucher, pour moi, c'était un triomphe. Personne ne le savait, mais c'est le plus grand triomphe que j'ai eu dans ma vie. Voilà. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que la musique est très, très, très importante dans certains textes. Dans d'autres textes, c'est le mot aussi, les mots. Quand on travaillait avec Genet, il avait cette chose d'exigence que j'ai trouvé assez extraordinaire. C'est-à-dire que je crois qu'il tenait vraiment à qu'on réinvente son texte, donc qu'on réinvente ses mots. Et je me souviens qu'à un moment où on répétait les paravents, la première fois qu'on les a joués, il arrêtait tout le monde. Je me souviens d'un exemple, à un moment, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre ou moi qui dit la lune, comme ça. Alors bon, on a eu droit à un putain de speech en disant non, quand on parle de la lune, il faut que la lune soit. Donc il faut quand même une seconde penser à la lune. Comme il avait le goût aussi que le geste ne soit jamais, si vous voulez, à l'image du texte. Moi je me souviens qu'il m'avait envoyé un petit mot une fois quand je jouais la mère dans les paravents où j'avais je ne sais plus quoi dire exactement qui n'avait aucun rapport avec le geste qu'il me demandait. Et il voulait que je, enfin, c'est difficile de le dire comme ça, que je joigne le pouce et l'index de chaque main, comme le ferait un conférencier. Et c'est vraiment un moment où, en principe, elle ne faisait pas une conférence, la mère, vous voyez, voilà.
En fait, c'est un travail un peu comme le sculpteur.
Il y a un aller-retour sans cesse, pendant le trajet, ces trajets que nous faisons, entre l'intuition d'un texte, et puis après, le raisonnement, l'intuition et le raisonnement. Et l'un vient sans cesse, si vous voulez, juger l'autre, d'une certaine manière. Et puis, on avance comme ça. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'après, quand on joue, ça continue. Avec cela, en moins, c'est qu'on a l'impression que devant un public, on a tellement peur qu'on n'ose pas inventer des choses nouvelles. Parce qu'on a peur de se tromper, enfin, il y a toujours cette espèce de risque constant.
In my beginning,
Cyrine Sens, ce qui se passe, est-ce que ce sont lorsque vous interprétez des rôles ? Est-ce que vous interprétez des personnages ou est-ce que c'est plutôt une force ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ?
Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas... Le personnage vient pendant les répétitions pour donner une sorte de forme et mettre d'accord le personnage qui est écrit, enfin le soi-disant personnage, et moi, c'est-à-dire mon corps, ma tête, ma voix, ma manière d'être, voilà. C'est comment accoupler ces deux choses. C'est là où j'ai l'idée du personnage. En dehors de cela, je n'ai jamais eu l'impression de jouer un personnage. J'ai toujours eu l'impression que la scène était comme une sorte de creuset où se croisaient des forces, comme ça. Des différentes forces qui viennent du public, de la pièce, de l'espace, de nous-mêmes, de la journée, de l'instant. Et que le comédien, puisqu'il est là et présent, est, si vous voulez, le carrefour, et au carrefour du entrecroisement de ces forces. Alors, il s'agit de les prendre, comme ça, en soi, et les conduire ailleurs, ou les conduire à côté, enfin, les maîtriser, pour en faire quelque chose, mais en faire quelque chose pour le spectacle, plus que pour le rôle, si vous voulez.
Est-ce qu'il y a une forme d'abandon à un moment donné ?
Il faut y arriver. Par exemple, quand on est très jeune, quand on est jeune même, on a tendance à pousser, à vouloir accrocher, à vouloir faire des choses. Ça ne fait rien. En général, ça ne fait rien du tout que de la nervosité, et puis c'est tout. Avec le temps, avec la vie, avec des choses qui se passent dans la vie même du comédien, avec une distance qu'on prend dans la vie, alors là, on se rend compte qu'à ces moments-là, il faut se vider. Il faut avoir le courage de se vider, de devenir vide, et que les choses viennent si elles viennent, et si elles ne viennent pas. Tant pis. Alors, mais en général, quand on se vide vraiment, les choses viennent.
Maria Cazares, il y a une chose, je crois, qui vous caractérise beaucoup. C'est ce que Lorca appelle le duende. C'est-à-dire que je crois que lorsqu'on vous regarde, à certains moments, on est appelé par vous et par cette chose que Lorca définit, qui est le duende, qui vous traverse, qui vous habite, enfin, je ne sais pas trop.
Je crois que c'est du pays, beaucoup, hein. Ça vient beaucoup de notre pays. C'est une manière de vivre, ce qui va aussi avec notre tempérament et notre sentiment tragique de la vie. Et puis, cette idée, qui n'est pas comme chez les Orientaux, mais qui, je crois, est dans chacun de nous, on a l'idée de la mort. On est déjà avec l'idée de la mort. Bon. C'est là où il y a ce que j'appelle, moi, vivre avec le sentiment tragique. Ce qui nous fait rire. Ce qui fait que Don Juan essaie de vivre et que tout le monde et que les gens essaient de vivre le présent complètement à fond, comme quand on croque une pomme parce qu'on va mourir après. Ce n'est pas une question de se laisser aller dans la tristesse de la mort. Non, la mort aussi est la vie. Et on arrive jusqu'au bout, si l'on peut, pour vivre ce moment-là de la vie qui est la mort. Bon, quand on a cet esprit-là, on a l'impression aussi, en tout cas moi ça je le ressens, qu'on n'est pas grand-chose. Qu'on est un tout petit peu, on est placé dans ce monde comme, comment dirais-je, comme des vases par lesquels passe, comme ce serait un tonneau des Danaïdes, vous voyez, passe tout d'un coup un courant d'eau ou un courant de ce qu'on veut et il passe en soi, mais ce n'est pas nous. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de préparer tout ce qu'on peut préparer. C'est-à-dire notre corps, notre esprit, tout, notre concentration, notre vouloir profond, pour que cette chose qui passe par soi passe bien et passe ailleurs aussi.
Mais dites-moi, une comédienne, enfin quelqu'un, est-ce que c'est un artiste, un artisan, ça se rejoint ?
Il y a les deux. Il y a même l'ouvrier chez la comédienne. Ça, c'est, je trouve que c'est la partie, une des parties les plus nobles du métier.
C'est-à-dire l'ouvrier ?
Eh bien, l'ouvrier du travail, mot à mot, travail par travail, travailler le geste, travailler le mot, travailler, revenir sur la tâche. Enfin, mais vraiment le travail d'artisan ou d'ouvrier, si vous voulez. Mais il y a l'artisan, d'une certaine manière, mais il y a l'ouvrier aussi. Celui qui met les clous, qui met l'équipe. Et ça, je trouve que c'est une partie que depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'elle est abandonnée. Et c'est dommage. Parce que je trouve que c'est aussi une très bonne manière d'entrer dans le théâtre. Une manière aussi très humble. Et il faut une grande humilité pour jouer la comédie. D'ailleurs, vous savez, moi j'ai toujours eu très très peur de l'inspiration, très. C'est-à-dire que d'abord je n'aime pas aller en public, j'ai jamais aimé, avant c'était encore pire, c'était m'était dans des états affreux, bon. Alors pour pouvoir y aller, il fallait vraiment qu'il y ait une construction, mais au millimètre près presque, dans le cas où l'inspiration ne viendrait pas, parce que sans ça, si l'inspiration ne vient pas et qu'il n'y a pas de construction, l'horreur est telle que je m'en vais de scène. Parce que tout d'un coup, c'est la dépossession, si vous voulez, du masque qu'on a, Et à ce moment-là, on devient tout nu. Et alors, l'impudeur est telle qu'on n'a qu'une envie, c'est de partir. Ça m'est arrivé une fois, d'ailleurs.
Et est-ce qu'il y a, pour vous, une différence entre l'incarnation et l'interprétation ?
Je réfléchis.
Oui, parce qu'en fait, l'incarnation, c'est cette rencontre dont vous parlez entre l'auteur, le texte, le public.
Oui, c'est une osmose plutôt qui permet l'interprétation. N'est-ce pas ? Dans mon esprit. L'incarnation, c'est comme l'inspiration, vous voyez, je me méfie. Bon, si elle arrive par seconde comme ça, si tout d'un coup il y a un moment où on se sent, mais il faut que ce soit une seconde parce que sans ça, où on se sent parti, on ne sait pas où. C'est pas dans le rôle. Moi, j'ai une chose qui m'est arrivée comme ça avec Médéa. J'ai joué la Médéa de Sénèque. Et puis, des gens me demandaient, après, ça ne te fait rien de tuer tes enfants ? Et quand les gens me l'ont demandé, je me suis rendu compte qu'en effet, le personnage tuait les enfants. Mais moi, je ne jouais pas ça du tout. Mais pas ça du tout. D'ailleurs, j'étais très aidée par les enfants, parce qu'eux aussi, ils avaient ce sens-là. Mais enfin, c'est du tout, du tout. Or, je crois qu'il y a beaucoup de comédiens qui cherchent à incarner le personnage avant tout, et qui peuvent arriver au même résultat. Hein. Mais moi, non. C'est pour ça, quand on me parle de psychologie d'un personnage, je ne comprends rien. Enfin, je comprends, mais ça me bouche l'imagination, au lieu de m'ouvrir les portes de ce monde-là auquel j'aspire.
Ces émissions ont été diffusées pour la première fois du 9 au 13 avril 1990.